ce qui a pour intérêt d'abord d'obtenir des résultats dans les domaines qui nous tiennent à cœur, et deuxièmement de pas, je dirais, de fixer des limites, parce que l'épuisement va finalement arriver quand vraiment on va travailler sérieusement sur quelque chose et arrêter de flirter et de butiner à droite et à gauche comme j'ai souvent tendance à le faire. Donc éviter les digressions, éviter les parenthèses, essayer d'aller un peu droit au but, et je crois que c'est l'essentiel dans nos vies qui sont courtes. Et en plus, pour la plupart d'entre nous, couper en deux entre des moments dépressifs où on se sent absolument incapable de faire quoi que ce soit, de parler, de se servir un verre d'eau, préparer du café, ça j'en parle même pas, c'est insupportable. Moi, il m'est arrivé de me priver de manger des journées entières, juste à boire et même aller faire pipi, j'avais tendance à attendre. Tellement ça m'était désagréable de bouger de mon lit. C'est vous dire dans quel état il m'est arrivé d'être. Et là, les idées viennent pas, les mots s'enchaînent pas, je me sens pas du tout à même de prendre la parole. Et je crois que le terme de gestation qui a été employé tout à l'heure est tout à fait juste, et à mon avis, on est des gens qui prennent un peu plus de temps que les autres à digérer, mais une fois que tout est digéré, la roue tourne très vite. Et donc, je crois qu'il faut effectivement le meilleur moyen pour se remonter le moral quand on n'en a pas du tout, et certainement de se dire, je suis en période de gestation, et tout d'un coup, je vais accoucher de plusieurs choses à la fois, mais pour ça, bien sûr, il faut s'économiser, parce que vous savez comme moi que moins on dort et plus on est excité, et au bout d'un moment, on craque. Et on craque violemment, c'est difficile pour notre entourage comme pour nous. Alors, moi aujourd'hui, par exemple, pour parler concrètement, quand je dors pas, je me lance dans un processus créatif qui est effectivement la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir chacun d'entre nous, quelles que soient nos responsabilités professionnelles ou nos envies, nos désirs, nos passions. C'est vrai que créer est la façon la meilleure, je crois, d'exorciser tout ce qu'on a en soi, que ce soit négatif ou positif. De toute façon, on va créer quelque chose qui, quel que soit ce quelque chose, va nous satisfaire et nous faire plaisir pour peu qu'on soit arrivé à un résultat. Et je crois que c'est ça le plus difficile pour des gens comme moi, c'est de se fixer quelques canaux de transmission où on va insuffler cette énergie, et plutôt que de commencer 5 livres et finalement d'en terminer aucun, j'essaye maintenant de lire un livre à la fois et de faire une chose à la fois, parce que finalement, il n'y a que comme ça qu'on fait bien les choses. Et je sais qu'aujourd'hui, dans la vie moderne, c'est pas facile du tout avec les téléphones portables et autres moyens de communication qui finalement font qu'on est absent en présence des autres. Et je vous en prie, monsieur.
Alors moi, je voudrais vous poser une question, à savoir si vous vous voyez quand vous êtes en état d'excitation, et si vous voyez ce qui se passe, les interactions entre vous et les autres. Je travaille aussi à la télévision. Mais un degré en dessous de vous et des gens comme vous, c'est tous les jours que je les côtoie. Alors, vous, personnellement, je ne vous connais pas, ne vous sentez pas mis en cause par ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'on souffre, nous, les techniciens, autour de vous, et vous vous en rendez même pas compte,
Il a raison, il a parfaitement raison.
Alors, vous, les animateurs, les réalisateurs et les producteurs. Et non seulement, non seulement vous ne nous voyez pas, mais vous ne voyez pas la souffrance que vous nous faites subir et qui, quelquefois, génère après chez nous des difficultés.
Ce que dit monsieur est très, très juste. Je pense que ça mérite quelques applaudissements. Parce qu'en plus, ce n'est pas souvent qu'on les applaudit, les techniciens.
C'est tout à fait vrai ce que dit monsieur. Et c'est vrai que c'est... Ça me fait tout de suite penser, évidemment, à l'expression consacrée qu'a Christian Guay pour ceux qui n'ont jamais vécu d'épisodes dépressifs. C'est bien sûr le terme de conglorieux. Et je crois que la télévision est plein d'animateurs qui sont des conglorieux. J'espère, aux yeux de la plupart, ne pas en faire partie, mais c'est pas sûr du tout, parce qu'effectivement, quand on se met en avant, eh bien, on s'expose. Qu'on soit homme politique, de toute façon, une personnalité, médiatisée, s'expose. Et quand on dit s'exposer, c'est s'exposer à des critiques ou à des avis favorables ou mitigés, voire à l'indifférence. Mais l'indifférence, c'est pas très gênant, parce qu'a priori, on n'est pas au courant. Et il est vrai qu'on fait vivre des moments difficiles à ceux qui travaillent avec nous, parce que l'audiovisuel est une entreprise de main-d'œuvre et qu'on est très très nombreux derrière avant tout la caméra, et que, contrairement à ce que pensent beaucoup, l'animateur, celui qui est mis en avant, ou bien le comédien, n'est vraiment qu'une partie infime du gros iceberg que représente le tournage colossal d'une super production, mais même d'un film de budget moyen. Alors, monsieur a très bien fait d'intervenir, parce que c'est vrai que le plus gros problème, je crois, enfin en tout cas un des gros problèmes des maniaco-dépressifs, c'est de justement ne pas avoir forcément un miroir en face de lui, et de voir avec objectivité dans quel état il est et dans quel état il met son entourage. Parce que bien sûr, on est saoulant, on est fatigant, on est irritable, on est stressant. Bref, on a un peu tous les défauts, qu'on soit maniaque ou qu'on soit dépressif. C'est pas les mêmes, mais ma douce et tendre qui a encore le courage de me supporter me dit souvent « J'aime ni Dr. Jekyll ni Mr. Hyde, je voudrais le Yves normal. » Alors, tout à l'heure, on était en groupe pour en parler, et le gros problème, c'est qu'on est, je crois, jamais normal. D'ailleurs, qui peut prétendre à la normalité? Qu'est-ce que la normalité? Ça, c'est un vaste débat. Je crois qu'on est tous soumis à des hauts et des bas plus intenses que les autres, que nos chers concitoyens qui ne souffrent pas de troubles bipolaires, mais qu'effectivement, comme le souligne souvent Christian Guay, c'est ce qui nous donne notre richesse, c'est ce qui nous donne notre humanité, notre empathie. Et en ce sens, bah, j'ose espérer effectivement avoir une certaine capacité à me mettre à la place des autres pour me regarder. Alors bien sûr, j'ai mon frère jumeau qui est là. Quand il est avec moi, il y a un effet miroir indéniable qui fait que si l'un des deux est énervé par le comportement de l'autre, il va très vite réagir et essayer de le tempérer. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un jumeau miroir et même qui parfois est ce qu'on appelle en langage de télévision ou de cinéma, une doublure lumière. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc il est là pour m'éclairer quand il est là. Il est là pour me faire percevoir à quel point je suis lourd ou gavant quand je me lance dans des phrases que j'aurais pas dû commencer. C'est pour ça que je vais faire court et que je vais essayer de m'arrêter. Pour vous dire encore quelques mots, encore une fois sur la création, la créativité, je crois qu'effectivement on a tous à gagner à rentrer cette énergie dans les canaux qui nous tiennent le plus à cœur, parce que effectivement on est capable d'aller très loin si on canalise notre énergie. Et même, je dirais, non seulement on va rattraper le temps qu'on a perdu, enfin on dit qu'on ne rattrape jamais le temps et jamais son sommeil, donc bien sûr, une hygiène de vie et le sommeil, et prendre son traitement de façon régulière. Au passage, je vous signale, pour ceux qui s'intéresseraient, que je suis, par exemple, sous une posologie de l'amygdale à 200 mg, donc qui est la nouvelle molécule pour ceux qui ont des accès dépressifs très très douloureux. Un peu d'Eroxate en maintien antidépresseur, et puis également, je prends actuellement du Zovirax, qui est un anti-hypnotique, pour essayer de me calmer. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, ça ne marchera pas, ils ne mourront pas. Voilà, je vais m'arrêter parce que je vois que monsieur s'impatiente avec le micro, puis il y a peut-être des questions pour faire réagir certains d'entre vous par rapport aux deux témoignages et puis à ce qu'a dit Christian Guay. Peut-être que je vais finir juste en disant un tout petit mot. Allez, je le rends.
Non, mais merci. Un grand merci, et c'est vrai que tout à l'heure, quand j'écoutais Yves et cette grande facilité pour s'exprimer, je repensais à un film qui s'appelle What About Bob. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film. What About Bob est un film qui met en scène un patient et son psychiatre. Et le psychiatre est interprété par Richard Dreyfuss, et le patient s'appelle Bill Murray. Et à un moment, donc... Le psychiatre doit passer à la télévision et on voit le psychiatre qui est complètement inhibé, coincé, qui répète 250 fois sur son miroir. Et puis Bill Murray, donc le patient, qui est un patient, je ne sais pas, soi-disant obsessionnel, mais plus que ça, et à mon avis probablement maniaco-dépressif, qui arrive à trouver l'adresse du psychiatre sur son lieu de vacances et qui arrive au moment du tournage du film, et bien sûr qui prend la vedette sans aucune difficulté. Donc je voudrais juste terminer parce que c'est vrai que Yves a participé donc à cette réunion. Il y a énormément de choses qui ont été dites, cette première réunion qui avait lieu à 17h, et là il a répété des mots alors qu'il est arrivé en retard, des mots que je vous avais annoncés au tout début, à savoir l'empathie, à savoir cette générosité, à savoir ce caractère très riche que peuvent avoir les personnes qui sont atteintes de troubles maniaco-dépressifs, de troubles bipolaires. Et je crois que c'est important d'avoir cette vision positive et non négative d'un trouble qui, je le sais, est très invalidant, mais de retenir aussi cet élément positif. C'est pour ça que sans arrêt, je fais référence à Respiro, même si elle n'est pas maniaco-dépressive authentique. On retrouve ce fond de personnalité qu'on retrouve chez l'extravagant Mr. Dietz, avec toujours cette générosité. Et quand on connaît très bien Yves, c'est vrai qu'on retrouve cette générosité. Et Marie, exactement la même chose. Alors, je voudrais juste terminer sur une phrase, et puis après, je vais vous laisser la parole, et je vais peut-être demander à Marie et à Yves de remonter sur le podium. C'est une phrase de Boris Cyrulnik qui me paraît très intéressante. Et il écrit: si la souffrance contraint à la créativité... Ça va, je vais assez lentement, Denis. Donc, si la souffrance contraint à la créativité, cela ne signifie pas qu'il faille être contraint à la souffrance pour devenir créatif. Cela ne signifie pas qu'il faille être contraint à la souffrance pour devenir créatif. Donc cette phrase, elle illustre bien aussi le problème, c'est-à-dire que c'est vrai que les personnes qui sont atteintes de ce trouble ont une sensibilité à part et ont une capacité de créativité extraordinaire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas passer par là pour créer. Ça, c'est un petit peu le mot de la fin. Donc je vous remercie de votre attention, et puis je vais vous laisser la parole pour les questions.
Merci.
Alors, juste une chose, parce que je vais faire comme Yves. Je voudrais juste lire un petit poème, parce qu'il y a eu une émission hier de Delarue sur les troubles dépressifs. J'ai eu des échos, et en particulier des échos un petit peu inquiétants de la part d'un psychiatre qui avait des positions un petit peu trop radicales. Hein. Je crois qu'il faut pondérer ses propos. Il n'y a pas de position aussi extrême, parce qu'on peut être amené dans des cas difficiles à utiliser deux antidépresseurs. Dans notre pratique, on le fait très souvent. On peut être amené à utiliser des tranquillisants, même si on n'aime pas trop les tranquillisants. C'est vrai que ça peut avoir un effet anti-sérotoninergique, mais ça apporte énormément de services dans les troubles anxieux. Donc il faut arriver quand même à prendre de la distance par rapport à ces propos. Mais j'ai appris que Michel Hamelin avait été interviewé, je crois, ou avait présenté son livre. Donc un livre dont je vous avais déjà parlé, puisqu'on l'avait vu il y a quelques mois, qui s'appelle PMD, en sachant que PMD s'écrit P-E-H-E-M-D-E. Et donc c'est un recueil de poèmes, je vous lis juste un petit poème, probablement écrit au cours d'une phase d'excitation maniaque. Sur la route de Matassa, j'ai rencontré Montonçon, qui venait de Métessé. Il cherchait qui que quoi dans où, le voleur de pronoms, dérobé à l'école, un jour de grammaire. Donc ça, c'est je dirais, tout à fait caractéristique des jeux de langage de la phase d'excitation maniaque. Donc je le relis une fois. Sur la route de Matassa, j'ai rencontré Montonçon, qui venait de Métessé. Il cherchait qui que quoi dans où, le voleur de pronoms, dérobé à l'école, un jour de grammaire. Voilà, donc PMD est édité par le publieur, et vous pouvez commander ou télécharger cet ouvrage en tapant www.lepublieur en un seul mot, lepublieur, .com. Donc Michel Hamelin. On va peut-être s'asseoir.
Alors, excusez-moi.
Attendez, une règle fondamentale, c'est-à-dire qu'il faut passer par le micro.
Voilà.
Parce que,
pas de vent, pas de chocolat.
C'est clair.
Alors, moi, je ne m'impatiente pas, mais d'abord, il fait chaud ici. Et puis ensuite, je suis fumeur. Et je suis bipolaire. Sur l'échelle de. C'est pas Richter, mais bon, je suis à peu près à 3 au-dessus de la moyenne. Je négocie le virage, et contrairement aux conduites automobiles, je dirais aux gens que pour sortir du virage, il ne faut pas accélérer, il faut essayer de lever le pied. J'avais deux questions, mais je me rappelle plus, bien sûr. Ah si, une qui dit, tiens, ce soir, j'ai pas suivi toute la réunion, mais je pense que... moi aussi, je passe sur scène de temps en temps, mais je vais pas à la télé parce qu'ils payent pas, c'est clair. Ils prennent la taxe, ils prennent les pubs, et puis... hein, d'accord, c'était un aparté pour le monsieur, là. Oui, donc... vous en avez peut-être parlé ce soir. Moi, j'aurais voulu être un artiste, comme dit la chanson, et puis un jour, je fréquente beaucoup d'artistes, bien sûr. J'ai rencontré un groupe d'artistes, ils m'ont dit, mais tu fais quoi, toi? T'es artiste en quoi? Ben, je sais pas. Puis je les ai vus 3 jours plus tard, et puis j'ai réfléchi, en fait, ce que j'ai fait dans ma vie, ben, j'ai fait du fric. Alors, je suis artiste en fric, je sais faire du fric. Alors, je sais pas faire des toiles, mais je sais dire au mec qu'il est bon, ben, tu vas au bistrot, là, l'autre, il enlève tout, tu passes à chez l'Auvergnat, et puis il va il aura 10 points, il sera content, puis tout le monde est content. Ben, ils ont gagné des sous, les peintres, avec ça. Donc ça c'était à part ce soir, et je voudrais revenir sur une antériorité par rapport à ce que vous avez dit sur les couples bipo. Alors vous avez dit non, et bien je suis bien content de ne pas être d'accord avec vous, parce que je vais vous donner ma thèse en 2 minutes. Moi je pense que personnellement j'ai pas l'expérience de couple bipo, mais je vais la faire. Un couple bipo pour moi, ben, quand il y en a un qui est en dessous, ben, l'autre il a qu'à y donner un peu d'énergie pour leur monter. Puis après, ça risque de basculer, mais on essaie de toujours rester sur la ligne. Et puis, bien sûr, vous allez me répondre. Bien sûr, vous allez me répondre. Oui, mais quand ils sont tous les deux en haut ou en bas, eh bien, on se sépare le temps qu'on se soigne, et puis on est content de se retrouver. Moi, je vais faire ça, je vais essayer, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, c'est tout.
Bon. Bonjour. C'est une question pour Yves. Vous continuez à travailler ou vous avez tout lâché?
Bonne question. En réalité, je m'attelle. Actuellement, j'ai plus une activité régulière d'animateur. Et donc, je suis encore plus intermittent du spectacle qu'avant. À la fois pour les tournages en tant que comédien, les tournages en tant qu'animateur, ou bien les événements qui m'est donné d'animer. Et donc je me suis tourné, ayant plus de temps, vers l'ensemble du processus de production, c'est-à-dire de la prise de vue jusqu'au produit fini, broadcast, prêt à diffuser. C'est-à-dire que il y a d'abord la prise de vue, puis il y a le montage, il y a le commentaire qui est collé au la bande son, et tout ça, bah, c'est le travail de plusieurs personnes, mais voire d'une seule. Et donc, tout ce processus est intéressant dans son ensemble. Il m'a toujours passionné. C'est par manque de temps que je ne m'y suis pas intéressé plus. Et là, je dois dire que j'ai profité de mon temps pour travailler comme un réalisateur, c'est-à-dire superviser la prise de vue dans son organisation, le montage, superviser le montage de façon à avoir un produit satisfaisant. Travailler les commentaires, bien sûr les écrire moi-même comme je l'ai toujours fait, les dire, ce qui est un métier à part entière, et puis régler, bon ça c'est pas trop mon domaine, les questions administratives liées à, bon, ou techniques de façon à avoir un produit prêt à diffuser. Voilà, donc pour moi effectivement je dirais que j'ai beaucoup appris pendant ces épisodes dépressifs, pendant... ces années où je ne savais pas que j'étais maniaco-dépressif, mais où j'avais déjà effectivement des comportements typiques, cyclothymiques. Et les périodes de dépression notamment m'ont permis de prendre du recul par rapport à ma situation très privilégiée d'animateur, mis en avant, mais aussi très exposé avec ses risques, avec ses contraintes, parce que effectivement avoir une grande notoriété, en tout cas sur une certaine tranche de la population, c'est parfois lourd à porter. Et effectivement, prendre plus de distance, être plus disponible pour écouter les autres, être plus attentif, être plus pragmatique, plus dans l'expectative, en train de contempler, de regarder et d'essayer de comprendre mieux les autres. Certainement, ces gros coups de frein que j'ai subis m'ont, encore une fois, comme disait Christian Guay, peut-être empêché de devenir un con glorieux. Et donc voilà ce que je fais actuellement. Je travaille à la fois comme journaliste, donc là complètement en retrait, sans que ma voix est utilisée, mon commentaire, ma façon d'écrire, ma façon de parler, mais j'apparais pas physiquement à l'antenne, et finalement je m'en porte plutôt mieux.
Il vous reste un peu de temps libre ou pas?
Est-ce qu'il me reste un peu de temps libre?
Oui. Parce qu'il y a une association qui s'appelle Argos 2001 et
oui,
on cherche des communicants. On a besoin de pognon, on a besoin d'adhésion parce qu'on n'est pas encore reconnu d'utilité publique et nous faut 300 adhérents pour être reconnu et on n'est que 170. L'assemblée a lieu la semaine prochaine et comme vous communiquez pas trop mal, si vous pouvez nous donner un coup de main, on peut peut-être y arriver avec
alors,
vous.
Alors peut-être déjà qu'on peut faire une annonce pour tous les gens qui sont là. Cette assemblée aura lieu donc...
Mercredi 21 janvier, 127 rue de la Santé.
127 rue
de la Santé.
127 rue de la Santé, donc mercredi prochain, c'est ça?
21, oui.
Et il faut 130 adhérents en plus.
Voilà.
Bah écoutez, je crois que dans la salle, on est à peu près une centaine, donc j'invite tous ceux qui voudraient soutenir cette association très très utile, puisqu'effectivement, je connais déjà Argos. Bravo pour le travail qui est d'ores et déjà fait. Et puis pour les petits prospectus qui sont disponibles. Donc encore une fois, je lance donc l'appel, je ne suis que le relais. Pour vous proposer donc d'aller à cette assemblée générale Argos.
Oui, et on a besoin de mécènes aussi.
Alors, pour ce qui est de l'argent, j'en ai pas beaucoup.
Non, mais pas vous. Mais
faudrait
vous
s'adresser à d'autres cons glorieux.
Et est-ce qu'on peut compter sur vous pour les rencontrer?
Pour rencontrer des
cons glorieux?
Ah non, je leur parle pas. Non, je leur parle pas. Avec eux, je suis déprimé. Ils me dépriment. D'ailleurs, la télé déprime souvent. La télé, en tout cas, me déprime pour la plupart du temps.
Non, mais on n'ira pas voir les mecs de la télé, on sait bien.
Non, bien sûr. Simplement, effectivement, je vous souhaite de trouver le nombre d'adhérents suffisant et les subventions qui vont avec et les dons. Monsieur, au fond.
Bonsoir, je m'appelle Joachim Royot. Je vois que ce soir, il y a beaucoup de monde.
Vous, est-ce que vous parlez un petit peu plus fort, le micro plus près du visage?
Comme ça va bien?
Voilà, à vous.
Je m'appelle Joachim Royot. Je suis d'origine espagnole. Je vois ce soir qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur les audiovisuels. Je suis peintre, je vis de ma peinture, mais à part de ma peinture, de mes expositions, je travaille pour les longs métrages de dessins animés, pour Disney exactement. Beaucoup, certains entre vous aurez des cassettes, ou vous aurez vu la télé Tarzan, le bossu de Notre-Dame, Hercule et Atlantide. Je travaille comme ça, je suis maniaco-dépressif depuis plusieurs années. Je suis sur Terralite, je suis aussi Depakote, je suis aussi le Cyprexa, et grâce à ça, je peux tenir la route de mon travail. Hein. Maintenant, je travaille ici en France. Le prochain mois, je pars aux États-Unis pour travailler comme directeur artistique sur une production sur Tarzan 2. Et je peux vous dire deux choses. C'est que sur les deux états, soit l'animique, soit la dépression, il y a des avantages et des inconvénients. Quand je suis en état animique, je fais de la peinture à ma pleine. C'est-à-dire je déborde en créativité, ça me passionne, je suis dans un état d'excitation, je vois les couleurs plus brillantes que jamais, je sens même l'odeur de la peinture, ça m'excite beaucoup. Je puise très facilement donner des coups de pinceau avec très peu d'erreurs. Et normalement, ce qui me prend 3 semaines, 2 semaines à le faire, je le fais même en une semaine ou la moitié d'une semaine. Et même ça me réveille la nuit et ça m'oblige à faire de la peinture pendant la nuit jusqu'à j'ai finalisé ce que je veux faire. Ça m'épuise. Parce que puis la côte haute, ça vient le bas. Et ça, c'est ce que je veux faire avec tellement de stress et qui sort si bien. Ça ne sort pas si bien que ça. Alors je suis dans une dépression, j'essaye de barbouiller avec ce que j'ai, avec mes tableaux, avec mes dessins. Et je fais ce qui m'aimait peu et me donne l'opportunité de faire. C'est-à-dire, je fais mon travail, j'ai un savoir-faire, alors je le fais bien. Normalement, ça tient la route. Mais je sais que je peux espérer beaucoup plus de moi et ça devient mon insatisfaction de ne pas avoir saisi ce que je voulais. Alors j'imagine que pour la plupart des créatives, soit de la sculpture, soit de la musique, soit de la peinture, de les médias, ça doit être un petit peu pareil. Il y a des hauts, des bas, il faut lutter un petit peu contre ça. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, mon témoignage par rapport à ce que je ressens. Et voilà, c'est tout.
Merci. Merci de votre témoignage. Il est certain qu'il y a une chose qu'on n'a pas abordée. Vous voulez dire
une seule chose, vous avez mentionné tout à l'heure à Tim Burton et à Robbie Williams. J'ai la chance de les connaître personnellement et c'est exactement ce que vous disiez.
Bien. Juste une petite chose que je n'ai pas mentionnée, mais je l'ai mentionnée déjà antérieurement, c'est le fait que quand on est dans une phase d'excitation, il y a une hypersensorialité. Et moi, je me souviens des mots d'une patiente il y a une quinzaine de jours qui disait « Ah, le rouge, il est plus rouge que d'habitude ». Et c'est vrai qu'il y a, une amplification donc, des sens. Et ce que vous disiez très très justement, c'est qu'il y a une majoration de tous les sens, mais que ce soit au niveau olfactif, gustatif, visuel, auditif aussi. Donc il y a cette perception qui est très particulière et qui probablement joue un rôle aussi dans cette créativité. Alors il y a autre chose que je voulais mentionner, parce que c'est une petite histoire anecdotique, mais je l'ai déjà racontée, mais je vais la raconter à nouveau aujourd'hui parce qu'elle illustre très bien ce qu'est la créativité chez un maniaco-dépressif. Je l'ai raconté lorsque j'avais abordé les problèmes judiciaires. C'est que j'avais vu, dans le cas d'une expertise, hein, vous vous en souvenez peut-être, un patient donc, qui était impliqué dans une affaire de faux. Et ce patient n'avait aucune formation, strictement aucune formation dans le domaine artistique. Il travaillait comme il pouvait, en sachant qu'il était maniaco-dépressif depuis plusieurs années. Il n'avait jamais été informé sur sa maladie. Il avait un traitement, du lithium. Il continuait à faire des fluctuations d'humeur. Et son seul moyen de subsistance était de vendre, de récupérer des matériaux et d'aller aux puces. Alors il faisait les puces de Montreuil, les puces de Vanves et les puces de Clignancourt. Et un jour, il est tombé sur un ouvrage de Dubuffet. Et il s'est dit, tiens, je vais faire une copie. Donc, au cours d'une phase normothymique, il a dessiné, il a fait une copie d'un Dubuffet sur un bout de papier qu'il a chiffonné. Et puis il a mis son bout de papier par terre dans un cadre. Et à ce moment-là, il y a un homme qui est passé qui dit, tiens, un Dubuffet. Et donc, il lui a dit, combien vous en voulez? Je ne sais pas, vous savez, moi j'ai trouvé ça dans un débarras, j'ai acheté ça, je ne sais plus combien, mais c'était un lot. Ben, écoutez, je vous en donne 200 francs. Et donc, le type a récupéré les 200 francs. L'autre était ravi d'avoir un Dubuffet pour 200 francs. Et il est reparti. Et donc, ça marchait. Donc, il a continué. Et il a refait d'autres Dubuffets. Et comme ça, il en a fait une trentaine, une quarantaine, toujours en copiant, mais vraiment le modèle et respectant vraiment le modèle original. Jusqu'au moment où il est devenu maniaque. Il est rentré dans une phase d'excitation maniaque, et là, il ne s'est pas pris pour Dubuffet, mais il n'avait plus besoin de modèle, et il faisait des trucs extraordinaires. Et il prenait toujours la même signature de Dubuffet, et là, il en a vendu. Il en a vendu beaucoup plus, jusqu'au moment où la fondation Dubuffet a porté plainte contre lui, et s'est retrouvé mis en examen.
Oui, bonsoir. Moi, je voudrais vous poser une question concernant les enfants. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était important de détecter la maladie le plus tôt possible. Et je voulais savoir si il y avait un moyen de repérer les enfants souffrant de cette maladie. Et d'autre part, je voulais vous demander s'il existait un lien entre les enfants dits intellectuellement précoces, encore faut-il adhérer à ce critère, et la maladie bipolaire.
Alors, en ce qui concerne, c'est un petit peu hors sujet, mais on va répondre. Hein. Première question, les signes d'alerte sont beaucoup plus difficiles à détecter chez l'enfant, car chez l'enfant, la dépression ne se caractérise pas comme chez l'adulte, hein, c'est plus une cassure au niveau du rythme scolaire, enfin des résultats scolaires, une irritabilité, un retrait, mais un enfant ne va pas exprimer un état dépressif comme un adulte. En ce qui concerne les enfants précoces, je n'ai pas d'informations. Les seules données qu'on a, ça concernait essentiellement les déficits de l'attention avec hyperactivité ou les hyperactivités avec déficit de l'attention. Et là, il y a des liens, mais est-ce que ce sont des formes de manie juvénile, ou est-ce que ce sont deux pathologies qui coexistent? Ça, on ne peut pas répondre. Il y a un certain nombre de pédopsychiatres qui travaillent sur ce sujet. Je vais quand même repasser la parole à Bill Murray pour
c'est trop d'honneur
pour qu'il nous raconte quand même. Parce que le trouble maniaco-dépressif commence jeune, très jeune, et on a des enfants qui déjà présente des fluctuations d'humeur. Or, tout à l'heure, il avait pris la parole dans notre petit groupe, là, à 5 heures, et il avait parlé déjà de certains de ses comportements et du fait que vous partiez la nuit à 8 ans.
Oui, en effet. J'ai pas attendu 12-13 ans pour faire le mur. J'ai commencé dès 8 ans. J'ai raconté tout à l'heure, effectivement, en groupe, que mon premier souvenir, je dirais, d'épisode hypomaniaque remonte effectivement à même avant 8 ans. Je devais en avoir 7. Et effectivement, en pleine nuit, je me suis réveillé avec la pêche et je me suis dit, tiens, on va aller se balader dehors. Et comme on avait des volets coulissants, mon père a entendu, a cru que c'était un cambrioleur et m'a pris pour un somnambule. Ce que, à mon avis, je n'étais pas, puisque je l'ai parfaitement entendu arriver avec ses pas sur la moquette. Et même s'il m'a un peu surpris, parce que en dépit des pas, je continuais à regarder les étoiles, je pense pas du tout avoir été somnambule. Et en réalité, en y repensant, je me dis, tiens, c'est certainement le premier signe annonciateur de futurs troubles. Par ailleurs, effectivement, je vous le disais, quand j'étais gamin, on me disait souvent que j'étais excité. Par ailleurs, je me souviens très bien avoir eu des moments proches de l'état dépressif à l'école. Et en tout cas, si on m'avait posé la question à l'époque, j'aurais dit que j'étais certainement cyclothymique. Donc, effectivement, tout peut démarrer très tôt. C'est vrai que depuis toujours, moi, effectivement, j'ai eu des périodes d'hyperactivité. Et que d'une façon générale, ces périodes d'hyperactivité étaient effectivement précédées ou suivies de périodes de dépression. Ou en tout cas de fatigue physique et morale, déjà préadolescent, voire avant. C'est-à-dire que déjà tout jeune, il m'arrivait d'avoir des périodes d'activité intense, et puis des périodes marquées par l'anxiété, voire l'angoisse. Et même, je dirais, des difficultés relationnelles à établir le contact, à me sentir un peu à part, tandis qu'à d'autres moments, je me voyais plus comme un leader emportant l'adhésion. Donc, cette alternance d'humeur peut effectivement être très présente chez l'enfant, a fortiori, comme le disait Christian Gay, et ça fait tilt dans ma tête, le fait d'être hyperactif. Et avoir effectivement un déficit de l'attention. Moi, je pense que c'était effectivement mon cas. J'avais des problèmes réels de concentration. En cours, généralement, comme je vous le disais, je jouais, je me balançais sur ma chaise, je discutais avec les copains, et puis je regardais par la fenêtre, et dès que je voyais du vent, je me disais, qu'est-ce que je me casserais bien faire du windsurf. Ou quand je voyais la neige tomber, le temps se gâter, je me disais, tiens, je serais bien sur mon snowboard, j'en ai vraiment rien à faire de ces cours. Donc, mais ce qui ne m'a quand même pas empêché, Dieu soit loué, de faire quand même quelques études, mais j'ai toujours eu, effectivement, je note ce qui a été dit sur les enfants, hyperactivité, précocité, déficit de l'attention, c'est clair que j'avais tout pour être malade.
Bonjour, voilà, en fait, moi c'est un témoignage, hein. Je suis comédienne. À l'âge de 28 ans, j'ai fait ma première dépression. Je jouais à l'époque au café-théâtre, les Mangeuses d'Hommes. Je me suis retrouvée prostrée et je ne pouvais absolument pas aller jouer au café-théâtre. La seule chose que j'ai pu faire, c'est appeler ma mère au secours. Et j'ai commencé donc, à partir de ce moment-là, à faire une psychothérapie. Mais je n'ai pas été diagnostiquée maniaco-dépressive, alors que quand il y avait une fête, je dansais sur les tables et c'est tout juste si je ne me mettais pas à poil. Et des petites, en fait, j'étais le clown de la famille, mais je pense que j'étais un clown en vérité très triste. Donc ça fait 14 ans que je suis en thérapie et seulement en fait 2 ans et demi que j'ai pris un traitement suite à un voyage au Mexique où en fait j'ai pété les plombs mais très très grave parce qu'en fait moi mes crises maniaques c'est mystique. Donc je me suis pas pris pour Jésus, je me suis pas pris pour la Vierge Marie, mais en fait là-bas ce pays m'a révélé donc le don que la vie m'avait donné, mais c'est un don qui m'a un petit peu dépassé puisque j'avais une magie très forte en moi et cette magie en fait était un petit peu au-dessus de ce que je pouvais réellement recevoir, enfin disons que ça m'a fait péter les plombs, quoi. J'ai vraiment pété les plombs. Et à la suite de ça, donc je tirais les tarots et puis j'avais des visions, enfin bref. Et à la suite de ça, j'ai fait une très très grave crise de dépression. Mais moi, je ne savais pas que j'étais maniaco-dépressive, alors que j'ai un père qui est maniaco-dépressif, mais on a toujours su dans la famille qu'il était maniaco-dépressif. Bref. Donc, au bout de 6 mois où j'ai cru que j'allais mourir, j'ai été aux États-Unis et là, reçu par un médecin. Et comme chez les Américains, l'ami qui vous accompagne peut rentrer dans le cabinet, elle a dit effectivement, elle a des hauts et des bas, etc. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que donc j'ai pris du Dépakote pendant 2 ans. Et d'ailleurs, bon, j'ai rencontré le docteur Gay parce que je voulais avoir son avis. Je suis suivie par un psychiatre donc depuis à peu près 3 ans. Et je perdais mes cheveux. J'ai dit, j'ai quand même pas envie de devenir chauve. En plus, bon, je l'ai quand même signalé au niveau de la libido, absolument zéro. Au niveau de la créativité, ben, moi qui suis une grande créative aussi, qui suis un peu du genre aussi, quand je suis en phase maniaque, à me lever à 5 heures du matin et être en écrire de la poésie en automatique, et etc. Là, plus rien, donc c'était l'accalmie en même temps, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un petit peu des vacances. Par contre, je voudrais témoigner qu'au niveau de la libido, bien qu'on en a parlé la dernière fois vaguement, quand vous disiez, Christian, que c'est pas grave puisqu'on sent rien, donc ça manque pas, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et depuis que j'ai arrêté le Dépakote, donc j'ai arrêté le Dépakote pour passer au Lamictal. Et entre-temps, bon, je vais vous faire rire, je suis partie au Brésil, et donc mon psychiatre m'a dit, il faudrait peut-être pas que vous preniez du Lamictal alors que vous allez au Brésil, et j'ai dansé la samba pendant 16 jours et 16 nuits, et j'ai eu la libido qui est remontée au plafond, j'ai pas sauté sur tout le monde, j'ai eu peur de devenir nympho, mais non, seulement j'ai simplement ressauté sur mon ami quand je suis rentrée, et c'était vachement bien. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai revu mon psychiatre, et je lui ai dit, il est hors de question que je reprenne un stabilisateur d'humeur, parce que finalement, j'ai un bon grain, je le sais, j'arrive à gérer, je ne vais pas me mettre... par exemple, j'avais rencontré une sainte Ama, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous la connaît, c'est une femme qui donne le darsham, et quand elle vous prend dans ses bras, il y a une telle énergie... que elle sauve des vies, mais moi, j'ai pété un câble total, mais alors total, quoi. Donc, la vibration était beaucoup trop forte pour moi. Donc, maintenant, je sais qu'il ne faut plus que j'aille dans le côté mystique, parce qu'on ne peut plus me rattraper. Donc, j'essaye de rester les pieds sur terre. Ceci étant, j'ai arrêté le traitement du Dépakote, et je refuse de prendre du Lamictal, parce que j'ai quand même retrouvé mes petits dons de créativité et de sorcières bien-aimées qui sont pas désagréables. Et voilà, je suis sous Effexor. Je suis sûre d'être un peu hypo. Niveau, je sais pas, 4, 5, j'en sais rien. Mais je suis pas au plafond. Et j'ai décidé de gérer... Alors, pour moi, il y avait deux choses. Ou j'étais dans une camisole chimique et je disais non à la libido et non... moi, à ma créativité, et j'ai décidé, pour le moment, de prendre que de l'Effexor et de dire, bon, on verra bien, parce que, par exemple, quand moi, je décolle, on peut me rattraper assez facilement, c'est plus facile pour moi d'aller en bas qu'en haut. Voilà, donc, mon petit témoignage à moi. Merci.
Merci de votre commentaire. Donc, je vais pas commenter ce que vous dites. Hein. Juste un point, enfin 3 points. Première chose, c'est que c'est bien qu'aux États-Unis, et ça devrait être fait comme ça en France, on puisse être accompagné. C'est-à-dire que quand on va consulter un psychiatre, eh bien, très souvent, on ne sait pas ce qu'il faut dire et que l'ami ou le fiancé ou quelqu'un de proche qui vient et qui accompagne, eh bien, ça nous apporte des informations complémentaires. Ce n'est pas une pratique courante en France. C'est un petit peu dommage. parce que ça nous est vraiment très très utile. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième commentaire, je ne vais pas me permettre de porter de jugement sur votre traitement, c'est le fait que le contrôle, et là il y aura toute une réunion qui va être consacrée à la gestion de sa vie et au contrôle, on sait jusqu'où on peut aller, et à certains moments, donc, il est certain qu'il y a une ligne à ne pas dépasser, parce que quand on est passé dans la phase maniaque, c'est fini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière, et là, vous êtes à nouveau la grande sorcière. Mais lorsqu'on est en état d'hypomanie, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se contrôler, bien aimé. En phase maniaque, je ne sais pas. Mais en phase... D'accord. Donc en phase d'hypomanie, c'est contrôlable. Combien de temps, je ne sais pas, mais c'est vrai que faire attention à son sommeil, éviter de se mettre dans des situations trop périlleuses, pas toxiques... Voilà, il y a quand même un certain nombre de conseils qui sont importants et qui permettent de gérer. Alors, je crois qu'il y a un respect, parce que chaque individu fonctionne à sa manière, et c'est le problème de la créativité. Il n'est pas général à tout individu, c'est-à-dire que chaque individu va avoir un ressenti qui va être particulier. Marie nous parlait du fait que le traitement n'avait pas du tout aboli, diminué, abrasé sa créativité, en sachant qu'elle avait des doses qui étaient presque infrathérapeutiques. C'est vrai que lorsqu'on est surdosé, et là je m'adresse particulièrement à ceux qui prennent des médicaments neuroleptiques, comme le clopixol, comme l'aldol, là il y a vraiment un abrasage, entre guillemets, qui fait que la créativité, elle n'existe plus. En tout cas, merci de votre témoignage.
Oui, mais justement, c'est le sujet que je voulais aborder. Je voulais revenir sur le lithium et le dosage du lithium. Vous avez dit tout à l'heure que tout était question de dosage. Alors, il y a question de quelque chose qui a dû m'échapper, parce que j'ai cru toujours comprendre que le dosage devait être fixe de 0,8 g au milligramme dans le sang, n'est-ce pas, de théralite.
Alors,
en ce qui me concerne, s'il faut que je donne mon pédigré, je suis donc sous lithium depuis 3 ans, j'ai pas choisi le traitement, on m'a transporté juste derrière aux urgences, j'ai subi des ECT, je suis ressorti avec une amnésie et un traitement lithium. Le traitement lithium me convient plutôt bien, après avoir perdu mes cheveux, je sais plus qui c'est qui a parlé de ça tout à l'heure, sauf que j'ai toujours été créative depuis toute petite, et particulièrement depuis l'âge de 16 ans, j'ai fabriqué les meubles qui sont chez mes parents, chez mon frère, dans toute la famille. J'ai fini par en faire mon métier en 95 et jusqu'à l'an 2000 à l'étranger. Et depuis que je suis sous ce traitement, je n'arrive plus à rien. C'est-à-dire qu'autrefois, je me réveillais n'importe quand, parce qu'une idée me venait, et je démarrais, et rien ne m'arrêtait, et j'allais jusqu'au bout, et ah, c'était formidable, c'était... le sexe à côté, c'est rien. Et maintenant, je n'ai plus rien, moi. J'ai un traitement de lithium, et mon imaginatif, tout mon créatif est sous couvercle, totalement étouffé. Alors, peut-être que je suis un cas particulier. Enfin bon, je suis venu là pour pas me sentir un cas particulier. Donc, bon, j'aimerais pas m'entendre dire ça ce soir. Mais enfin, il y a bel et bien, j'en ai parlé à plusieurs médecins, un effet du lithium qui c'est l'effet thérapeutique même de pas vouloir vous faire monter trop haut ni descendre trop bas. Donc voilà, tout ce qui est imaginaire, de même que... Bon, j'avais d'autres choses qui accompagnaient. J'avais des rêves prémonitoires. Bon, ça aussi, ça a disparu. Je ne m'en plains pas, évidemment. Mais voilà, moi, j'ai mon chevalet. J'ai un petit bout d'atelier qu'on veut bien me prêter. Et puis, voilà, j'ai mes pages blanches. Et puis, j'arrive plus à rien. Et tout ce côté créatif, c'était très thérapeutique pour moi. Voilà. Donc, j'envisage d'arrêter le lithium. Moi, je ne prends que ça. Et vous dites la galère.
Alors, bon, je peux faire des petits commentaires. Parce que c'est vrai que normalement, c'était la deuxième partie de l'exposé, c'est de parler des thérapeutiques.
et de ce qu'on pouvait proposer aujourd'hui par rapport à ces problèmes concernant la créativité, concernant l'émoussement des affects aussi, parce qu'il n'y a pas que la créativité. Mais bon, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est important, c'est qu'au niveau des émotions, au niveau des affects, il y a beaucoup de personnes qui se sentent complètement anesthésiées et qui n'ont plus l'impression de vivre. Alors, je disais sur un mode un petit peu ludique, c'est-à-dire que concernant la libido, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas de libido et lorsqu'on n'a pas de désir, eh bien, on n'a pas véritablement de manque. Cela dit, le conjoint se pose quand même un certain nombre de questions, et c'est vrai que c'est pas une vie normale. Bon, je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez, là, notre sorcière bien aimée. Mais en ce qui concerne le lithium, Mogenshu, qui était l'un des premiers à avoir établi quelles étaient les bonnes concentrations de lithium, il insistait sur cette notion de personnalisation de la lithiémie. Alors quand on parle de personnalisation de la lithiémie, c'est de ne pas se satisfaire d'une fourchette globale qui est proposée. Par exemple, pour le téralite LP400, c'est 0,8 à 1,2 millimol. Pour le téralite 250, c'est 0,5 à 0,8 millimol par litre. Mais c'est d'essayer d'évaluer quels sont les effets indésirables et les effets bénéfiques, et d'essayer de trouver la lithiémie la plus basse, mais bien sûr en espérant qu'elle est toujours efficace, sans les effets indésirables. Et rien qu'une diminution de 0,1 ou 0,2 millimol de lithium dans le sang permet de faire disparaître un certain nombre d'effets indésirables, et en particulier ces effets cognitifs, et quand on parle d'effets cognitifs, c'est des troubles intellectuels, et en particulier cet émoussement, hein, l'émoussement des affects qui est beaucoup plus mal vécu et plus universel, je dirais, que le problème de la créativité. Mais c'est indissociable, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus d'émotion, et ça, c'est un réel problème. Et ce que vous soulevez, eh bien, on l'observe très très souvent en pratique courante pour des personnes qui ne sont pas confrontées donc à cette créativité, mais qui n'ont plus d'émotion, hein, qui se sentent abrasées, qui sont écrêtées, il n'y a plus rien. Donc là, ça nécessite un ajustement, en sachant que on a à notre disposition d'autres substances qui exercent moins d'effet sur cette créativité et sur ces émotions. Le lamictal est un très bon exemple, et le lamictal donc est plus utilisé dans les dépressions récurrentes, à savoir que c'est un médicament qui va avoir plus d'effet sur la prévention des dépressions, il va avoir peu d'effet sur la prévention des épisodes maniaques. Hein. C'est un thymorégulateur qui agit par le bas. Il a quand même un effet antimaniaque indirect, dans la mesure où ça permet de ne plus utiliser d'antidépresseurs. Le problème des antidépresseurs, c'est que ça entretient la maladie et ça peut faire passer de l'autre côté. Hein. Quand on prend des antidépresseurs seuls, avec des antécédents de troubles bipolaires, il y a quand même un risque, on s'expose à un risque. Mais là, je rejoins aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le problème qui est majeur, et le problème auquel sont confrontées les personnes qui sont maniaco-dépressives, et Yves ne va pas me contredire sur ce point, c'est la dépression, parce que quand la dépression arrive, elle est abominable, elle est douloureuse, elle est installée, elle est chronique, elle est rigide. Quand je parle de rigidité, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est en bloc et qui est peu résistante, enfin qui ne sera pas améliorée tout de suite par des traitements antidépresseurs. Ça, c'est un réel problème. Donc il y a quand même nécessité d'envisager ce traitement thymorégulateur pour se protéger contre ces récidives dépressives qui nous posent, nous psychiatres, c'est notre problème majeur. La dépression, l'état d'excitation, à chaque fois je plaisante en parlant, mais je plaisante pour histoire de d'apporter un petit peu de légèreté. Mais c'est vrai que quand on est en phase maniaque, on traite très facilement un état maniaque. Ça se traite très facilement. Le seul problème, c'est d'attraper le maniaque. Alors c'est sûr que quand il est parti au Brésil, c'est un problème. Mais la dépression, c'est notre problème, c'est quelque chose qui est très difficile à traiter. Et Yves, bon, avec le lamictal, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de cette réduction en intensité. Je lui laissais la parole déjà peut-être pour égayer un petit peu. Et puis
pour ce qui est de mon traitement, effectivement, moi je dois avouer que je ne suis pas encore à l'équilibre. Si tant est que je puisse être à l'équilibre un jour. En tout cas, c'est vrai qu'on essaye, bien sûr, comme tout un chacun, de réduire l'amplitude de ces sinusoïdes pour essayer d'éviter d'être à plus 10 ou moins 10. ce qui met notre vie en danger dans les deux cas. Et je dois dire que aujourd'hui, j'estime être en progrès. J'espère que c'est le point de vue de Christian Gay aussi, dans la mesure où j'ai des oscillations qui vont de moins 5 à plus 5. J'espère bien sûr osciller moins, parce que ce serait moins fatigant pour moi et surtout pour mon entourage, entre moins 2 et plus 2. C'est vrai que pour revenir sur la question de monsieur tout à l'heure, il est évident que l'accélération de ma maladie en intensité et en, je dirais, en puissance ont eu effectivement certainement pour effet de compromettre quand même partiellement ma carrière, dans la mesure où pendant plusieurs mois, notamment les épisodes dépressifs, et ce pour la première fois en 90, enfin, c'est-à-dire en 97, c'était déjà invalidant et ça a justifié pour moi le début d'un traitement à base justement d'antidépresseurs. Le diagnostic de maniaco-dépression est arrivé beaucoup plus tard, même s'il y avait des présomptions, puisque mon frère jumeau avait déjà présenté la maladie et le docteur Alain Campagne, qui l'avait traité, m'avait tout de suite averti dès sa première hospitalisation, enfin en tout cas dès cette troisième hospitalisation, troisième crise maniaque très forte chez mon frère jumeau, il m'avait averti du fort risque potentiel que je courrais. Mais à l'époque, j'avais pas fait forcément de lien. Enfin, plus tard, puisque mon frère jumeau a été diagnostiqué dans le début des années 90, enfin le milieu, et moi, même à la fin des années 90, début 2000, je ne savais pas encore vraiment si j'étais maniaco-dépressif ou pas, et mon psychiatre lui-même de l'époque n'était pas en mesure de me répondre, et encore moins du coup d'adapter le traitement. D'autant que celui-ci, comme beaucoup d'autres, ne connaissait pas très bien la maladie, de par ses symptômes, et encore moins les traitements possible en dehors de certainement du thérapeute, du lithium, qui est quand même maintenant largement répandu et d'une notoriété supérieure aux autres. Donc effectivement, quel traitement au niveau de la libido ? L'amygdale associé à du Viagra fonctionne très bien. Non, puisqu'on en parle, je voulais, le nom ne revient pas, mais je pense que le docteur Christian Gay sera en dur de nous donner une précision. Je sais qu'il y a une plante africaine qui aide beaucoup, et elle existe en fait, c'est ce qu'on appelle un correcteur en général, mais de l'équilibre en particulier, notamment lorsqu'on est sous traitement d'anafranil, qui est un antidépresseur puissant. Alors, vous vous rappelez du nom de ce médicament de plante africaine, là, c'est un nom en kéké ou néné, je ne sais plus. C'est Kiki ou Néné, je crois.
Je
ça vous dit rien ?
Non, ça me dit rien.
Je retrouverai, hein. Ne vous inquiétez pas.
Non, mais le problème...
Mais où en est votre libido ce soir ? Je sais pas. Super. Bon. Vous êtes accompagné ?
Le problème, c'est que le problème de la libido, c'est que le Viagra ne fonctionne que si on a du désir. Pour que le Viagra fonctionne, il faut avoir du désir. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres produits qui sont proposés. Il y a le Levitra. Hein, donc, pour vous en souvenir, je vous dis Levitra pas. Et puis,